fait peur et je retrouve plus mes notes, mais elles vont revenir, j'en suis sûr. Voilà. Bien d'être connecté, mais ben des fois, il faut. Enfin, la technique, quand c'est trop compliqué, ben, on n'y arrive pas toujours. Mais bon, voilà, nous y sommes. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un verset qui est assez connu. Et souvent, on le cite, on le connaît, il nous revient en mémoire pour la première partie. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des humains. On n'est pas appelé à se mettre en guerre, ni contre ceux qui ne partagent pas notre foi, qui ne sont pas chrétiens comme nous, ni contre ceux qui la partagent et avec qui on n'est pas d'accord. Les oppositions, elles ne sont pas là. On aime bien cette partie-là parce qu'elle est facile à comprendre. C'est celle qui vient mettre un coup de frein, arrêtez de vous taper dessus. Mais la suite est peut-être plus difficile à comprendre. Parce qu'il y a quand même une lutte à avoir contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au point sur ce que sont les dominations et les autorités? Personnellement, c'est quelque chose de flou. Ça l'a été pendant longtemps. Et je pense que c'est intéressant de creuser le sujet et de savoir un peu mieux ce que nous avons en face, ce à quoi nous faisons face. Alors, ce matin, la prédication, elle va être un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je pars plus d'un texte sur lequel je creuse. Mais là, j'avais à cœur de partager avec vous une lecture. J'ai lu un livre qui parle justement de ce sujet, le livre de la théologienne américaine Marva Doane, intitulé « Ce Dieu qui habite nos faiblesses ». Et ben, je vais un peu suivre son développement pour partager cette réflexion sur les puissances d'un côté et la faiblesse de l'autre. Voilà. Donc je sors un peu des habitudes. J'espère être clair, pouvoir être suivi sur ce chemin et pouvoir apporter quelque chose de nourrissant et d'utile. Avant ça, je vais prier. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin de savoir ce que tu as à nous dire pour pouvoir avancer dans ta volonté, pour pouvoir parler de toi à la fois dans nos discours, mais aussi dans nos actes, dans nos vies. Alors Seigneur, rends-nous disponibles à ton écoute. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La traduction du verset d'Éphésiens 6 que je lisais parlait de domination, d'autorité. Dans d'autres traductions, on parle de puissance. Qui sont ces puissances? Elles ont été présentes dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la théologie, et puis Et puis elles ont été un peu oubliées, mises de côté, au profit d'un salut personnel. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. Le salut se résumait à ça. Mais la Bible et le Nouveau Testament ne parlent pas que de ça. Ils parlent aussi de puissances qui dominent sur le monde et qui sont vaincues. Donc, je disais, c'est un concept qui a été oublié pour se concentrer sur l'homme, sur son péché, sur son salut. Et ça a été oublié jusqu'au début du siècle précédent, lorsque l'humanité a fait face à deux guerres mondiales, la première, puis la seconde, où on a découvert les horreurs de ce qu'était capable de faire l'homme, des horreurs qui dépassent ce qu'un homme seul est capable de faire. Est-ce qu'un homme seul est capable de faire une boucherie comme celle qui a sévi pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'un homme seul, en se réveillant un matin, peut faire la Shoah, ce massacre systématique de tout un peuple? Et pour réfléchir à ces choses-là, on a repensé aux puissances dont parle la Bible. Quelque chose qui dépasse l'homme et qui en prend le contrôle pour amener l'humanité sur des chemins qu'elle aurait voulu éviter. Comment comprendre les puissances? Il y a un peu deux pôles qui s'opposent. D'un côté, des gens qui, en lisant ces textes, voient des êtres personnels, individualisés, des démons qu'il faut aller combattre, un peu comme dans une lutte spirituelle. Quand j'étais jeune au lycée, je jouais un peu à des jeux de rôle et il y en avait un où on incarnait soit des anges, soit des démons et qui se battaient. Donc, une façon de voir comme ça. Et de l'autre côté, complètement, d'autres voient les puissances comme quelque chose de désincarné, d'abstrait. C'est une entité sociale, collective, c'est la société qui produit ceci. Je crois que la Bible parle résolument d'entités qui existent et qui ont une influence sur la société, qui en prennent le contrôle. Je trouve que l'exemple de ce qui s'est passé dans les guerres en parle. Et quand on réfléchit, on voit des mouvements de foule, enfin des mouvements de société dans notre monde. La Bible parle des puissances spirituelles. Elle n'en parle pas que dans ce verset d'Éphésiens 6 qui est le plus connu, mais dans Colossiens, par exemple, il est écrit que c'est par lui, par Jésus, que Dieu a tout créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Les puissances sont des choses qui ont été créées par Dieu. Il est dit aussi dans l'Épître aux Romains que la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Le péché a tout changé, les choses qui ont été créées bonnes ne fonctionnent plus et les puissances prennent le pouvoir pour amener vers quelque chose qui ne mène à rien. Mais la Bible proclame aussi la victoire de Jésus-Christ. C'est dans Colossiens, Dieu vous a fait revivre avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document qui nous accusait et qui était contraire par ses dispositions légales, il a supprimé ce document, il l'a cloué à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Par sa mort sur la croix, Jésus a infligé la défaite aux puissances qui essaye de prendre le contrôle sur l'homme et sur le monde. Et là, on touche à quelque chose qui est important de garder en tête. Dans le moment où nous vivons, ce moment entre la venue de Jésus, sa résurrection et son ascension au ciel à la droite du Père, d'une part, et sa seconde venue qui va venir, eh bien nous sommes dans un entre-deux, dans ce qu'on aime appeler dans le déjà et le pas encore, la tension entre le déjà et le pas encore. Christ a déjà vaincu, il a déjà remporté la victoire. Les puissances, par exemple, ont déjà perdu. Mais on est dans le pas encore, dans le temps où l'Église continue le témoignage, le temps de la patience de Dieu, où il attend que tout le monde, le maximum de personnes, tous les élus, se repentent, et où il y a encore des tensions, le péché est encore là, les puissances sont encore à l'œuvre. Elles ont perdu, mais encore à l'œuvre. Et si on prend une métaphore, une illustration de guerre mondiale, on aime parler de ce temps où les Américains avaient déjà débarqué en Normandie, en Europe. La victoire des nazis était scellée, et pourtant, on était dans le pas encore, il y avait encore des combats. Les puissances sont omniprésentes et les puissances essayent de dépasser les limites que Dieu leur a fixées. Si j'avais à illustrer l'illustration que j'aime utiliser, qui me vient en tête, par exemple l'argent. L'argent est une puissance qui peut prendre le contrôle, qui peut faire perdre la tête. Elle peut être utile. On dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est utile, il permet le commerce, il permet de développer l'économie, de développer les projets. Mais l'argent, quand il devient un but en soi, quand il ne sert plus qu'à gagner plus d'argent, il devient inhumain, il exploite les plus faibles dans le but de gagner toujours plus. Une puissance qui prend le contrôle, qui dépasse ses limites et qui a servi. L'Église peut être une puissance. Elle peut être une puissance déchue qui dépasse ses limites. Et elle l'a été au cours de l'histoire. Lorsque l'Église était majoritaire, lorsque croire était obligatoire, lorsque on s'est mis à faire l'inquisition, à aller chercher ceux qui ne croyaient pas bien, et on les a persécutés, et on les a tués, l'Église, à ce moment-là, s'est comportée comme une puissance qui allait au-delà des limites qui lui étaient fixées. Au contraire de se comporter comme une puissance déchue, l'Église est invitée à parler de Dieu, à révéler Dieu et à révéler que la victoire sur les puissances a été remportée. Et le contraire de la puissance, c'est la faiblesse. L'Église et les chrétiens sont invités à vivre dans la faiblesse. Et il y a un verset qui est central. C'est 2 Corinthiens 12, 9, qui est un verset connu également. Paul parle de ce que il souffre d'un mal qui le diminue. Il est en combat permanent, c'est un sujet de honte, et il a demandé au Seigneur de le libérer de ce mal. Mais il écrit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul continue, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Marva Doan, cette théologienne dont je montrais le livre tout à l'heure, a travaillé ce texte. Elle trouve que la traduction n'est pas très précise et de façon assez convaincante hein, dans son livre. Elle montre pourquoi et elle traduirait ainsi. Le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit car ta puissance est menée à son terme dans la faiblesse. » Le texte en grec ne dit pas « ma » ou « ta », mais il dit « la puissance ». Mais surtout, le « s'accomplit », c'est un verbe qui veut dire qui est « amené au bout », qui se termine. Et donc, ce que le chrétien est amené à faire, c'est de mettre un terme à sa puissance. Nous sommes appelés à mettre un terme à notre puissance, à ne pas continuer dans la course de qui c'est le plus fort, qui sait faire le plus de choses. Essayer de nous élever au-dessus les uns des autres, mettre un terme à la puissance. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ trouve en moi son tabernacle. Le verbe en grec, c'est le verbe tabernacler. C'est un néologisme, un verbe un peu composé par Paul pour l'occasion. Vous savez ce que c'est le tabernacle ? Le tabernacle, c'était cette tente qui voyageait avec le peuple d'Israël dans le désert quand il partait d'Égypte en Israël. Et pendant qu'ils faisaient ce trajet, qu'ils étaient dans des tentes, ils avaient cette tente spéciale dans laquelle Dieu résidait. C'est là que Moïse allait pour parler avec Dieu. Et le tabernacle, par le tabernacle, Dieu habitait au milieu de son peuple. Et c'est ça que veut dire Paul. Lorsque je me débarrasse de ma puissance, oui, je suis faible, mais je laisse de la place pour que le Christ vienne habiter en moi, comme Dieu au milieu de son peuple. Je laisse de la place, et c'est sa puissance qui s'exprime. Et nous faisons ça à chaque fois que, au lieu de nous reposer sur nos compétences, sur notre savoir-faire, sur la façon dont nous jouons des coudes pour passer devant les autres. Au lieu de faire ça, nous acceptons notre faiblesse. Et c'est sur la faiblesse de Dieu que nous nous appuyons. La vocation de l'Église, c'est de proclamer et d'incarner la présence du Dieu qui libère des puissances de ce monde en laissant le Christ habiter sa fragilité. Lorsque nous mettons de côté la puissance, nous proclamons que nous avons trouvé mieux que ces puissances, que nous trouvons que Jésus-Christ est mieux que ces puissances. Et nous le disons au monde entier. Je parlais de l'argent. Et pour faire le lien avec ce que disait Nicolas, lorsque j'utilise l'argent pour être généreux, au lieu de le garder pour moi, pour avoir une réserve, au cas où, comme ça je serai fort, comme ça je serai protégé, au lieu de faire ça, je le donne, je blasphème la puissance de l'argent. Je dis, cette puissance, je ne me repose pas dessus. À la place, je veux faire ce que Dieu me demande. Parce que c'est en lui que j'ai confiance, et non pas en la puissance de l'argent. Et l'Église, je disais qu'elle peut être une puissance déchue et se comporter comme telle. L'Église peut s'appuyer sur la puissance. Elle peut s'appuyer sur un projet d'Église bien défini, une stratégie bien huilée, et grâce à cette stratégie, l'Église aura du succès. Grâce à cette stratégie, l'Église grandira. Non, pas grâce à la stratégie, grâce à la puissance du Christ. On peut avoir de super musiciens, une équipe de louanges qui nous mène et ça va attirer du monde. Non. Non. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas cette puissance musicale, artistique, attractive qui est la force de l'Église. C'est Christ. On peut avoir une super équipe d'accueil, des personnes avec le sourire qui disent bonjour ou qui vous servent un café. Ça va faire venir les gens? Non. Encore une fois, ce n'est pas sur cette puissance qu'on va s'appuyer. Réfléchissez. Où est notre force? Où est votre force? Nous sommes invités à mener notre puissance à terme pour que la puissance du Christ vienne habiter en nous. Lui faire de la place pour qu'il habite en nous. L'Église a donc cette vocation particulière, celle de vivre de sa faiblesse. Je m'arrête là 2 minutes avant de continuer. Non, ce que je vais dire, je le dirai après. Pardon. Comment l'Église doit-elle vivre, du coup? Parce que c'est bien de dire de se débarrasser de la force, de la puissance pour vivre dans la faiblesse, mais quel est l'être, quel est l'agir de l'Église, comment elle doit être, comment elle doit agir? L'auteur propose de revenir à un texte auquel on revient souvent dans ces cas-là. C'est un texte qui se trouve au début du livre des Actes des Apôtres, au début de l'histoire de l'Église, la première Église en fait, à Jérusalem. Et il est écrit que dans cette Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Non pas eux par leur stratégie, mais le Seigneur par sa puissance en eux. Cette Église repose sur cette action, cette direction. Et on va les passer juste rapidement. Et la première, c'est l'enseignement des apôtres. Tout repose là, sur l'enseignement juste, l'enseignement de la Bible. Et c'est important d'avoir une juste doctrine, d'être au clair sur ce qui se passe. Et c'est là que je vais vous dire ce que j'ai voulu vous dire il y a un instant. Avoir retravaillé ce sujet pour vous en parler, ça m'a fait vivre le temps de louange de façon complètement différente. Me souvenir de ce que il faut évacuer la puissance pour laisser la place à Jésus-Christ, bien ça m'a fait réfléchir autrement, avoir une juste doctrine, savoir comment les choses s'agencent. C'est important pour l'Église, pour ne pas se laisser embarquer par les idéologies. Et il y en a plein qui essayent de récupérer l'Église tout le temps. Il y a quelques années, on répétait « la foi, c'est du domaine du privé ». Ah ouais, d'accord, ouais. Donc du coup, on vivait l'Église un peu cachée parce qu'on avait le droit de croire ce qu'on voulait chez soi. J'ai le droit de voir croire ce que je veux chez moi, merci, c'est généreux. Aujourd'hui, c'est croire, ça fait du bien. J'aimerais bien avoir la foi. Ceux qui ont la foi, ça leur fait du bien. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Croire, ça fait du bien. Donc du coup, on déploie une foi, un enseignement où on parle d'un Dieu qui nous fait du bien, qui nous bénit, qui nous donne toujours plus, et on vient à l'Église pour aller bien. Mais ce n'est pas ça non plus. C'est important d'avoir une juste doctrine. Au centre, il y a la croix. La croix dont Paul dit qu'elle est une folie. Philippe nous en a reparlé avec la Sainte Cène. Jésus a été faible. Il est allé jusqu'à se laisser mourir, jusqu'à s'offrir en sacrifice. Et c'est cette défaite qui nous sauve. C'est cette défaite qui donne la victoire sur les puissances. Christ est allé au bout. Il a dit les puissances, je les rejette toutes. Je suis faible pour que Dieu s'exprime. Les puissances n'ont plus rien à dire. Deuxième direction, la communion fraternelle, vivre ensemble, l'ouverture, la vulnérabilité les uns avec les autres. Ceux qui étaient là récemment m'ont entendu prêcher ce texte de Paul qui disait « Soyez bien d'accord les uns avec les autres. » Recherchez le consensus, recherchez l'accord, être en communion. Troisième direction, la fraction du pain. Ce repas que nous avons pris, qui est un signe de faiblesse, il nous rappelle la croix, il nous rappelle le sacrifice. Rien d'extraordinaire dans ce repas, rien de spectaculaire. Chaque fois que nous le prenons, il nous rappelle que notre foi, elle n'a rien de spectaculaire. On n'a rien de fou à vendre, d'extraordinaire à vendre aux autres. C'est simple. Mais ça change la vie. Quatrième, les prières. Parfois, on imagine la prière comme quelque chose de magique. En prononçant des paroles de prière, on va faire advenir des choses. Avec une prière puissante, je suis puissant. Justement, la puissance, on veut écarté. Si vous vous souvenez de la prière que Jésus a enseignée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Par la prière, on rentre dans ce que Dieu veut. J'oublie ce que je veux, je rentre dans ce que Dieu veut. Quand je prie, je partage la lutte de Jésus-Christ. Je recherche sa volonté. C'est cette volonté que je prie. Par la prière, je m'unis à lui, à ce qu'il veut faire dans le monde. J'y participe. Cinquième direction, les signes et les prodiges. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'appuie sur la science, sur la médecine. Une autre puissance. Pourtant, la Bible proclame que Dieu dépasse ses limites. Et l'Église devrait affirmer qu'il y a une autre voie. Sixième direction, la redistribution économique. Cette Église vivait dans la générosité maximale, puisqu'ils vendaient leurs biens pour partager ce qu'ils avaient. Et nous, où en sommes-nous de la générosité? Où en sommes-nous du partage? Nous vivons dans un monde où l'argent est vraiment au centre, où ce que nous possédons est vraiment au centre. Est-ce que nous arrivons à profaner cela, à vivre différemment? L'auteur a donné un exemple assez anecdotique et pourtant qui parle énormément. Il parle des mariages dans l'Église. Est-ce que le mariage, c'est un moment où on doit dépenser une fortune pour en mettre plein la vue? Est-ce que quand on fait ça, on n'est pas justement en train de se soumettre à une puissance? On n'a pas besoin de ça pour se marier. Le sens du mariage n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'en mettre plein la vue? Est-ce que je ne suis pas en train d'être soumis à une puissance? Septième direction, le culte. L'auteur est américaine et elle a conscience qu'aux États-Unis, le culte, c'est un lieu de concurrence. Il y a des villes dans lesquelles les églises sont côte à côte, comme des magasins, et on va de l'une à l'autre en essayant de voir celle qui est le mieux, et si elle ne me convient pas, je change. La concurrence bat son plein. Ce n'est pas ça le culte. Le culte, c'est un lieu où je suis, où les chrétiens sont simplement des témoins amoureux de leur Sauveur. Nous venons ici parce que nous aimons Dieu et nous voulons vivre cet amour avec lui. Vous comprenez qu'on pourrait parler de ces directions encore et encore. Je crois que c'est ce que nous faisons, dimanche après dimanche, dans les différentes prédications. Je pense que nous en avons assez pour aujourd'hui, assez à ruminer, assez à réfléchir. La puissance, les puissances que nous voulons écarter, mener à terme, faire terminer dans nos vies pour pouvoir faire de la place à Jésus, pour qu'il puisse s'exprimer. Pour terminer cette prédication, je vais revenir au point de départ, Éphésiens 6, et lire le texte plus largement que ce verset qui était un point de départ. Parce que ce texte nous donne une idée de comment vivre sur ce chemin difficile de se débarrasser des puissances pour laisser la place à la faiblesse pour que Jésus puisse habiter en nous. Paul écrit à l'église d'Éphèse « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Que nous puissions revêtir cette armure. Et c'est Christ habiter en nous.